Transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 9h40 à Alger où depuis hier, vous le savez, des représentants du gouvernement malien et des groupes armés du Nord tentent de négocier un accord de paix. C'est d'ailleurs la première fois depuis plus d'un an que les deux parties se retrouvent autour d'une même table. Pourtant, rappelez-vous, l'accord signé à Ouagadougou en juin 2013 prévoyait l'ouverture de ces discussions 60 jours après l'installation du gouvernement issu des élections. La présidentielle s'est déroulée il y a un an et depuis, eh bien, les pourparlers ont piétiné. Les groupes armées ont continué leurs actions dans le Nord. Alors cette rencontre à Alger représente-t-elle finalement un pas décisif vers la paix? Comment parvenir à un accord durable? Quel compromis attendez-vous de part et d'autre? Êtes-vous confiant sur l'issue des négociations? RFI vous donne la parole durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Vos réactions sur la page Facebook de l'émission. Le débat a lieu en ce moment même entre vous. Il y a par exemple Bassam qui nous dit « Mais pourquoi diable un pays souverain comme le Mali, doté d'un président et d'un gouvernement démocratiquement élu, doit s'asseoir à la même table avec des hors-la-loi ? Je pense que la communauté internationale devrait plutôt aider le Mali à mater ses groupes armés afin de les mettre hors d'état de nuire. » Réaction également de Mokhtar qui nous dit « Les négociations doivent impérativement passer par l'insertion des Touaregs dans l'administration malienne, voire aller jusqu'à une décentralisation beaucoup plus poussé des régions, donc je pense qu'il part des régions du Nord, le tout sous le contrôle du pouvoir central. Allez, et un dernier commentaire avant de passer au standard, Moussa qui nous dit « Le linge sale se lave en famille, donc cette négociation devrait avoir lieu à Bamako ». Et on va voir effectivement ce que certains d'entre vous pensent de ces discussions qui se déroulent une fois de plus dans la capitale algérienne. 33 9 693 693 70. Bonjour Abderrahman.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Bamako, au Mali, on vous écoute. Déjà, êtes-vous optimiste? Êtes-vous confiant sur l'issue des négociations qui ont commencé hier à Alger?
Oui, moi je suis très optimiste et confiant sur l'issue des négociations qui se déroulent à Alger et qui vont se terminer certainement à Bamako par la signature d'un accord. Pourquoi je suis optimiste? Parce que les deux parties sont disposées aujourd'hui, aussi bien le gouvernement malien que les groupes armés, et surtout l'implication active de la communauté internationale et de la France. La population malienne est fatiguée. Nous voulons la paix et nous occuper que du problème ou des problèmes du développement, de lutte contre la pauvreté et lutte contre les maladies qui lacinent cette population. Oui.
Mais vous dites vous constatez une volonté de part et d'autre du gouvernement, des groupes armés, les revendications des groupes armés, on les connaît. Bon, officiellement, on ne parle plus d'indépendance. Là, les groupes réclament depuis plusieurs mois une forme d'autonomie, un statut particulier pour le Nord. Et le Premier ministre est très clair, jeudi dernier, donc avant le démarrage de ces négociations, il a déclaré que ni l'indépendance ni l'autonomie ne seraient à l'ordre du jour. Alors que c'est justement ce que réclament les groupes armés, l'autonomie du Nord.
Je demande que ces groupes armés mettent un tout petit peu d'eau dans leur vin. Aujourd'hui, nous voulons une cessation des hostilités, le désarmement des groupes rebelles. L'autonomie n'est pas possible aujourd'hui. C'est l'idée aussi de la majorité des Maliens, mais oui, à une décentralisation beaucoup plus poussée. Le Mali est un champion dans la décentralisation dans la sous-région. L'actuel ministre de la décentralisation a été primé du prix roi Baudouin en Belgique dans le cadre de la décentralisation justement. Mmh. Et cette décentralisation doit concerner toutes les régions du Mali.
Oui, c'est ça, parce que si le pouvoir central de Bamako accorde davantage de décentralisation au nord, on imagine bien que les autres régions du pays vont vouloir, à leur tour, exiger davantage de décentralisation. Abderrahman, ne raccrochez pas, vous êtes à Bamako. La diaspora malienne, évidemment, souhaite prendre part à ce débat. On a envie de l'entendre. Charlie, vous êtes à Paris, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Juan Gomez.
Pas question, dites-vous, d'accorder l'autonomie au nord?
Absolument pas, absolument pas. Nous avons la chance d'avoir élu un homme intègre qui a fait savoir à l'ensemble de la communauté internationale et à la communauté malienne qu'il n'y aura pas de partition du Mali. Oui, nous l'avons élu pour ça et nous lui faisons confiance d'aller au bout de son intégrité. Parce que les Maliens n'acceptera pas que les 1 240 000 km² qui nous a été légués par nos ancêtres qui puissent aller en fumer un beau jour par une rébellion Touareg à qui le Mali a tout donné, à qui le Mali a tout fait. Alors cette rébellion Touareg qui ne représente malheureusement pas personne que leur petite tribu et pour leurs petits intérêts, donc il est temps qu'ils le sachent. Si décentralisation, il y a, oui, pousser jusqu'à ce qu'ils veulent, ou que les MNLA forment, s'il veut, un parti politique, parce que le Mali est ouvert à tout, les partis politiques, ils peuvent se représenter à un parti politique. Si un jour ils veulent venir au pouvoir, il n'y a pas de problème.
Oui. Donc ça signifie, alors attendez, Charlie, pour résumer votre pensée, non à l'autonomie, mais oui à la décentralisation, évidemment, désarmement du MNLA, et pourquoi pas reconnaître le MNLA comme une force politique.
À la limite, oui. Pourquoi pas?
C'est ce que vous avez dit, hein. Vous dites à la limite. C'est ce que je reprends vos propos que j'essaye de résumer pour synthétiser un tout petit peu. Ne raccrochez pas. Je vous reprends dans un instant, Mamadou. On va peut-être débattre, avec plusieurs auditeurs en même temps. Zaïd, vous êtes en région parisienne également. Bonjour.
Oui. Bonjour.
Vous partagez le point de vue de Charlie à l'instant, pas d'autonomie?
Pas, mais complètement pas. Et, s'agissant de l'élection de Ibeka, il a été élu pour répondre aux aspirations des 90% vivants au sud. Et c'est mécanique au Mali. Voilà, c'est comme ça. Quel que soit Alpha, même si on met le MNLA comme parti politique, ils ne vont jamais avoir le pouvoir. Et d'ailleurs, le pouvoir de Bamako ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, on ne veut pas en parler non plus à Alger. Le gouvernement déclare qu'ils ne veulent ni autonomie ni indépendance. Mmh. Qu'est-ce qu'on va négocier alors? Qu'est-ce qu'on va aller faire à Alger? On se demande aujourd'hui. Oui. Et on peut retourner à Alger après l'échec des accords d'Alger avant. Ça montre que il n'y a pas de crédibilité assez pour parler.
Charlie, je voudrais qu'on revienne à Charlie. On vous retrouve dans un instant, Zaïd. Charlie, effectivement, Zaïd a raison, mais si on ne parle pas d'indépendance et si on ne parle pas au moins d'autonomie, à quoi ça sert de se rendre à Alger et de se retrouver autour de la table?
Absolument. Ça sert toujours une négociation. Mais dans ces cas précis, il faut que les MNLA disent ce qu'eux, ils veulent du Mali. Parce qu'il est hors de question que ce Mali soit partagé. Aucune discussion possible n'aboutira sur une partition du Mali. Les Maliens ne sont pas prêts à ça. Et je pense que l'opération Serval, au début de l'opération Serval, la France nous avait donné un grand espoir. Et nous avons été déçus, parce que cette opération n'est pas arrivée au bout de notre espoir.
C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire qu'attends, explique, développer.
Nous avons pensé à partir de Mopti, dès le début de l'opération, que c'était pour sauvegarder l'intégrité du Mali. Mmh. Mais nous avons compris par la fin que c'était tout simplement pour chasser quelques djihadistes du Mali et puis cantonner l'armée malienne à Kidal.
Voilà. C'est-à-dire que pour vous, ce que vous regrettez, et on le constate d'ailleurs dans de nombreuses réactions, depuis qu'on a l'occasion de parler de la crise malienne sur cette antenne, dans cette émission, c'est que le fait que Kidal, que toute cette zone échappe à tout contrôle de l'État malien, au contrôle de l'armée malienne, vous pointez-vous du doigt la responsabilité de la France. C'est ça.
Tout à fait. Nous avons nourri trop d'espoir pour cela. Donc, il fallait aller au bout de cette opération. Et vous savez, toute cette histoire de manipulation et de manigance de MNLA vient du fait que en février 2011, le Raïs Sarkozy, en son temps, avait accueilli quand même les MNLA en toute catimini ici au Parlement et au Quai d'Orsay, à Paris. Donc, à cette époque, en 2011, aucun Malien ne pouvait espérer ou penser un seul instant qu'en 2012, le MNLA viendra reconquérir les
Charlie, territoires. Je vous interromps parce que vous monopolisez l'antenne, il y a beaucoup de monde. Ça faisait un petit moment qu'on ne parlait pas du Mali. Je voudrais qu'on redonne quand même la parole à Zaïd pour sa conclusion. Zaïd.
Oui, j'aimerais répondre à Charlie et j'aimerais lui dire que sans la France aujourd'hui, on ne parlait même pas de Mali tant que tel. Et il n'y a pas besoin de dire que la France a échoué, c'est pas vrai. On a vu ce que la France a fait, on a vu qu'ils ont réussi à mettre un coup de botte dans la meule de djihadistes qui existait dans la zone depuis 2003, pas aujourd'hui, pas hier. Et après, comparer les MNLA et les groupes armés du Nord à des djihadistes, mais pourquoi négocier avec eux? Si c'est des terroristes, pourquoi négocier avec eux? Il y a quelques mois, Ibeka disait cela et Moussa Mara disait cela. Ça, c'est pas une mesure de confiance. Mmh. C'est pas mettre... C'est pas le bon...
Bien sûr, mais il y a un certain nombre d'internautes sur la page Facebook de l'émission que vous pouvez consulter, Zaïd, à tout moment. Il y a des auditeurs qui considèrent les groupes armés présents en ce moment même à Alger comme des bandits. Diarra nous dit, le Mali est un pays souverain. Il est dit dans sa constitution que son intégrité territoriale est inviolable. Donc négocier avec ces bandits revient à mettre la souveraineté du Mali en danger.
On parle de constitution, on parle de ce qui est dit dans la constitution, mais ça c'est utopique, ça c'est pas la réalité.
Ouais, mais la constitution, c'est la loi fondamentale. Donc si vous dites que c'est utopique, Zaïd, je regarde la pendule, on est déjà à la moitié de l'émission, vous avez pu vous exprimer. Merci également à Charlie, merci à Abderrahmane qui nous appelait en début d'émission de Bamako. On repasse au standard avec d'autres commentaires, d'autres réactions. Mamadou, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
On vous écoute concernant les négociations en cours à Alger.
Oui. Auparavant, permettez-moi, s'il vous plaît, de rebondir un peu sur ce que Zaïd, l'autre, vient de dire. Mm-hmm. Moi, je pense que le Nord a échappé au contrôle de Bamako il y a très, très longtemps. Hein. Pendant les 10 années d'ATT, c'était complètement un no man's land. C'était une zone de trafic de tout genre. Donc, depuis assez longtemps, ça nous avait échappé. Il faut faire de la réelle politique. Moi, ce qui est en train de se passer, pour revenir au sujet du jour...
Attendez, mais Mamadou, c'est intéressant, vous dites qu'il faut faire de la réelle politique, ça signifie quoi?
Oui. Pour moi, la réelle politique, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, les choses sont très claires. Hein. Le MNLA, le MAA, le HEUA, le Amsardine, Moudjao et autres sont tous en train de vouloir conquérir le nord du Mali juste pour pouvoir faire leur trafic.
Alors attendez, vous mettez, si vous me permettez l'expression, dans le même panier, le MNLA et le Moudjao.
Je mets dans le même panier tous ceux qui sont en train de prendre les armes pour pouvoir contrôler le trafic au nord.
D'accord. Ça signifie que pour vous, tous ces groupes-là, vous les considérez comme des groupes terroristes?
Je considère tous ces groupes comme étant des groupes qui veulent mettre en place un territoire de commerce de tout genre, mais illicite.
Mmh. D'accord.
Donc,
de l'autre côté, pour avancer un peu.
Exactement. Allons vers, faisons de la réelle politique. Aujourd'hui, nous faisons face à une incompétence notoire du gouvernement malien à négocier quoi que ce soit. Et ces groupes aussi n'arrivent pas à s'entendre parce que chacun veut avoir le leadership, parce qu'il y a quelque chose à gagner dans cette histoire de négociation. Donc ils n'arriveront pas à s'entendre. Et le gouvernement malien est complètement incompétent pour pouvoir faire des négociations assez poussées et de façon logique.
Donc
qu'est-ce
ça signifie... Oui, alors comment...
La communauté internationale.
Allez-y rapidement.
C'est-à-dire...
Les
autres pays, l'Algérie, le Niger, la France et autres, n'ont aucun intérêt qu'un no man's land s'installe au Mali. Et avec la signature de l'accord, je pense que l'accord qui a été signé hier, c'est la communauté internationale qui va tordre la main aux deux parties pour qu'on ait quelque chose.
Oui, mais excusez-moi, la réelle politique, c'est aussi accepter des compromis. On n'arrive pas à un accord de paix, d'autant plus qu'on le veut durable, cet accord, s'il n'y a pas des concessions, de compromis de part et d'autre. À vous entendre, ce n'est pas possible. On va voir ce qu'en pense Oumar, qui lui est à Koro. Il nous appelle de la région de Mopti. Bonjour Oumar.
Bonjour.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Ok, moi, mon analyse par rapport à la situation, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, premièrement, nous n'avons même pas le choix. Nous n'avons même pas le choix dans la mesure où, militairement, nous n'avons pas les moyens. Et puis sur le terrain, c'est le MNLA qui fait sa loi, en tout cas à Kidal et même aujourd'hui à Gao. Donc la seule solution pour nous aujourd'hui, c'est de faire une reconnaissance politique du MNLA, de faire des concessions pour pouvoir jeter des bases pour un accord définitif plus tard, mais qui ne sera pas scellé à Alger.
D'accord. Mais Oumar, faire des concessions, lesquelles?
Lesquelles déjà, comme je l'ai dit, reconnaître politiquement le MNLA déjà, ça c'est la première chose. Secondo, faire en sorte que ces populations du MLNA puissent être rapidement intégrées à ce qu'on appelle la décentralisation qui a commencé au Mali, ça fait déjà un bon. Et là, même s'il faudrait un peu ajouter un peu de ce qu'on faisait de l'autre côté, c'est-à-dire pour les autres régions, s'il fallait augmenter un peu cela pour la région du nord, de Kidal précisément, ça serait une très bonne chose. Maintenant, si on arrive à le faire, pour moi, on pourra calmer les choses et après discuter pour avoir des bases saines et durables.
Et vous pensez que la reconnaissance politique du MNLA incitera ce mouvement à désarmer ?
Tout à fait, ça, je suis tout à fait.
Vous êtes convaincu de ça.
Alors
que leur revendication principale, c'est l'autonomie.
Mais cette autonomie, bien sûr, vous savez, toutes les régions du Mali avec la décentralisation ont une certaine autonomie qui ne disent pas leur nom.
Mais
qu'est-ce qui peut se faire ? Qu'est-ce qui peut se faire ? C'est-à-dire, l'autonomie du MLNA, il faut que ça soit une autonomie qui ne leur permette pas de se désengager ou bien de se départir du Mali et du pouvoir central de Bamako. Voici comment moi je vois la situation. Et aujourd'hui, si on ne le fait pas, tout ce qui est Moujao, tout ce qui est Acmi, tous les autres Boko Haram et autres, si vous pensez quoi ? Aujourd'hui, le MLNA, ce n'est pas que les Touaregs. Il y a eu beaucoup de gens, on a vu à Tombouctou, ils se sont rassemblés. Et ça n'a duré que quelques temps. On l'a vu.
Bon.
Donc aujourd'hui, si le MLA, on reconnaît le MLA politiquement, si on a des accords
avec
le MLA.
Vous pensez que c'est un passage obligé, cette reconnaissance politique du MLA. Ahmed nous dit sur Facebook que tout accord qui ne prend pas en considération les aspirations légitimes de la population de l'Azawad, à savoir le droit à la gestion politique, économique et culturelle de leur zone, autrement dit, dit-il, une large autonomie politique, eh bien, l'accord échouera. Et il pose une question. Pourquoi les autorités maliennes ont-elles peur du fédéralisme alors que les pays fédéraux dans le monde entier s'en sortent très bien ? Karim, bonjour.
Allô, bonjour.
Vous êtes à Bamako, soyez le bienvenu sur l'antenne, on vous écoute.
Merci, Ouran, bonjour à RFI. En fait, mon intervention c'était par rapport à l'autonomie qui est demandée par les MNLA par rapport à la zone. Bon, en fait, moi je disais que l'autonomie ce n'est pas du tout possible parce que déjà, on parle de décentralisation poussée. Moi, je pense que avec cette décentralisation poussée, il s'agirait de voir maintenant qu'est-ce qui manque aux régions du Nord pour être au même pied d'égalité que les régions du Sud et puis leur donner les moyens nécessaires sans se détacher du pouvoir central de Bamako. Moi, par rapport à la situation des zones, c'est ce que je vois. Pas d'autonomie pour les régions du Nord, mais
Mais vous reconnaissez qu'il y a un déséquilibre de développement entre le Nord et le Sud ou pas ?
Ouais, il y a un déséquilibre de développement. En fait, il faut reconnaître que ces gens du Nord là aussi, et c'est des gens qui n'aiment pas travailler. Même si on leur donne des moyens, il ne faut qu'ils mangent et bouffent ses fonds.
Enfin,
et après, ils reviennent sur la table.
C'est un peu de la caricature, en fait, dire que les gens du Nord n'aiment pas travailler. Karim, c'est un peu de la caricature. On va voir ce qu'en pense Badraman, qui nous appelle de Paris. Bonjour Badraman.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes optimiste, vous y croyez, vous, aux négociations à Alger ?
Oui, je crois fermement, bon, parce que juste, je crois, vu la situation du gouvernement, la position d'IBK a vraiment évolué, ça c'est déjà un grand pas.
Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire,
elle a évolué en quel sens ? Comment ça ?
Ben, dans le sens de la négociation, parce qu'au départ, lui, ce qu'on avait vu dès le départ, il voulait récupérer le Nord par le Kidal par la force. On a vu ce que ça a donné. Donc, mais bon, du côté de MNLA, j'ai écouté mes compatriotes tout à l'heure, il y en a qui parlent que...
Dites-moi, vous, votre point de vue, en 10 secondes, malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Concernant le MNLA, vous en pensez quoi, vous ?
Ben, qu'il fasse le ménage. Qui fassent le ménage parce que on voit qu'il y a des djihadistes qui se sont mêlés à eux. Donc pour qu'il y ait une reconnaissance vraiment fiable et respectable, qui fasse le ménage, qui traite pas avec tout le monde.
D'accord, faire le ménage au sein du mouvement national de libération de l'Azawad. Merci à vous, je vous interromps, on est obligé de rendre l'antenne, mais on prolongera le débat certainement demain dans la libre antenne. On attend d'ailleurs dès maintenant vos inscriptions pour réagir à l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. Merci à tous, bonne journée et à demain.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture.
Et Sandrine, merci.